trop dur pour eux. Seulement, ce n'est pas du tout ce que nous enseigne la Bible. L'apôtre Paul est là pour dire dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 13, il dit « Aucune tentation, aucune, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais il dit, et il rajoute quelque chose d'important, « Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et ce passage des Écritures, mes frères et sœurs, est très important pour moi parce que il dévoile ce principe fondamental de la vie chrétienne, à savoir que Dieu ne permettra jamais qu'un de ses enfants traverse des difficultés qui lui soient insurmontables. Parce que la fidélité de notre Dieu est sans faille et cette fidélité-là l'amènera toujours à nous donner le moyen de supporter et de sortir de chacune des épreuves et de chacune des tentations que nous pourrons rencontrer durant notre vie de disciple. Et j'irai même plus loin, mes frères et sœurs, en disant que ce verset que nous venons de lire démontre très clairement que personne, et je dis bien personne, n'est contraint de céder au péché, bien au contraire. Nous pouvons choisir d'obéir à Dieu en toutes circonstances grâce à la force, à la sagesse, à l'intelligence et je dirais même à l'endurance qu'il nous permet d'acquérir si, et le si est là, si nous choisissons de nous confier totalement en lui. À cette condition-là, eh bien Dieu vous équipera de cette force, de cette sagesse et de cette intelligence et même, je le disais, de l'endurance. Et c'est pour ça qu'il est aussi écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, que le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. Vous savez, un des plus gros problèmes que nous avons, c'est que très souvent, nous ne retenons pas les leçons de nos échecs. Un peu, vous savez, à l'image d'Abraham, qui est retombé plusieurs fois dans cette forme de mensonge au sujet de sa femme. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait peur de mourir. Et nous le voyons à diverses reprises dans les Actes lorsqu'il va en Égypte, mais même après face à un roi qu'il était réputé pour peut-être être méchant s'il voyait sa femme belle, eh bien à deux reprises il tombe dans ce mensonge. Ou encore, je dirais à l'image de son fils Isaac qui va reproduire exactement les mêmes échecs que son père avec sa femme Rebecca. Comme quoi, nous pouvons toujours, vous savez, avoir envie de faire mieux que ceux qui nous ont précédés. Mais si nous ne veillons pas véritablement sur notre cœur et sur nos pensées à chaque instant de notre vie, alors je vous assure que nous serons de ceux qui allons forcément peut-être reproduire les mêmes erreurs. Frères et sœurs, qu'il est terrible de tomber dans l'échec. Surtout lorsque nous aurions pu l'éviter grâce aux avertissements de Dieu, mais que nous n'y avons pas fait attention en temps voulu. Et ça, c'est une des nombreuses raisons qui nous montre l'importance qu'il y a de lire la parole de Dieu et de nous appuyer sur ce qui est écrit. Je vous rappelle quand même au passage que c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous conseille de faire. Il va écrire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, que tous ces faits, c'est-à-dire toutes ces choses que vous allez lire, mes frères et sœurs, leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous, qui sommes parvenus à la fin des temps. En fait, la parole de Dieu contient de nombreux exemples qui nous permettent de savoir ce que nous ne devons pas reproduire dans notre vie afin de ne pas revivre les échecs que certaines personnes ont vécu avant nous. Et ce n'est pas pour rien que Salomon, tout le monde connaît Salomon, eh bien, le fils du grand roi David va écrire dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, « Ce qui a existé, c'est ce qui existera. » Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et si l'on dit à propos de quelque chose, regarde, ceci est nouveau, en réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. Mes frères et sœurs, à travers ce verset de l'Ecclésiaste, Salomon cherche à nous amener à comprendre que les raisons des échecs d'il y a 4000 ans sont exactement les mêmes que celles que nous avons aujourd'hui, que nous avons eues hier et que nous aurons demain. Voilà pourquoi je peux dire que les erreurs que Salomon a commises sont aussi les mêmes erreurs que beaucoup de chrétiens commettent de nos jours. Des erreurs que nous commettons peut-être même encore aujourd'hui. Vous savez, Le père de Salomon savait que les échecs pouvaient très vite arriver dans la vie d'un homme. Et il savait que si cet homme-là n'était pas vigilant dans sa relation avec Dieu, il tomberait dans des échecs. Et c'est pour cette raison que dans 1 Roi au chapitre 2 et au verset 1, il est écrit, et ce sera notre verset de référence ce soir. 1 Roi chapitre 2 verset 1. Regardez ce qu'il dit. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Amen. » David parle de réussite à son fils. Et il lui donne les clés de cette réussite. Et ce soir, eh bien, nous allons parler de nos échecs à travers l'exemple de la vie du roi Salomon. Une vie, vous savez, qu'il est très facile d'idéaliser lorsqu'on la regarde de loin, parce que Salomon était un homme qui possédait de grandes richesses, dit la parole de Dieu. Un homme qui a réalisé de grandes choses pour la gloire de Dieu. Par exemple, eh bien, c'est lui qui a bâti la première première construction du temple qu'il y avait à Jérusalem à partir des plans que David lui avait laissés. Nous avons même aujourd'hui accès aux différents livres que Salomon a écrits et qui, il faut bien l'avouer, nous montre l'étendue de la sagesse que Dieu avait donnée à cet homme. Et pourtant, si nous regardons la vie de Salomon d'un peu plus près, eh bien nous allons voir que c'était une vie qui était difficile et perturbée par de nombreux échecs vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des commandements de Dieu. D'ailleurs, je voudrais ouvrir une rapide parenthèse parce que c'est peut-être aussi ce qui se passe dans notre vie ce soir, mes frères et sœurs. Peut-être que vu de loin, les gens qui nous entourent s'émerveillent en voyant ce que nous avons déjà accompli pour l'œuvre de Dieu. En voyant notre belle manière de prier lorsque nous sommes à l'église. En voyant notre fidélité aux réunions et en nous voyant eh bien faire tout un tas d'activités pour l'église locale. Peut-être même en voyant notre connaissance biblique lorsque nous abordons certaines discussions avec des frères et des sœurs seulement. Peut-être que si ces mêmes personnes étaient capables de regarder d'un peu plus près, il verrait peut-être que la réalité dans notre vie en est tout autre et que notre vie ressemble peut-être un peu plus à une succession d'échecs et de problèmes spirituels que nous essayons de cacher du mieux possible. Et si c'est le cas ce soir, ce conseil que je donne, c'est le même que celui que je prends, eh bien, je vous assure, mes frères et sœurs, qu'il vaut mieux prendre le temps de confesser nos problèmes à une personne de confiance, quelqu'un qui sera là pour nous soutenir et pour nous aider à avancer avec l'aide de Dieu plutôt que de ne rien dire. Et de continuer comme ça à nous enfoncer dans une situation qui non seulement attriste notre Seigneur, il faut le dire, mais qui en plus ne fera qu'empirer jour après jour. J'ai connu des chrétiens qui étaient dans ces situations et qui montraient une image à l'Église, mais qui avait une vie remplie de nombreux échecs. Mes frères et sœurs, Salomon, je le disais, a connu de nombreux échecs. Et pourtant, la Bible nous dit quand même que les meilleures conditions étaient réunies pour qu'il soit et pour qu'il reste un exemple pour tout le peuple. Salomon venait d'une très bonne famille, c'était quelqu'un d'intelligent, c'était quelqu'un de cultivé. Il a connu la facilité dans tous les domaines de sa vie. Son père était roi et il n'a jamais manqué de rien, Salomon. Par la suite, la Bible nous dit qu'il succède à son père et que très vite il devient un roi qui est estimé, valorisé et reconnu de tous parce que c'était un roi qui faisait face à toutes ses responsabilités. Salomon était quelqu'un qui croyait en Dieu. Il avait grandi avec la foi de ses parents et avec les nombreuses expériences que David, son père, avait pu faire. Mais ce n'est pas tout. Salomon a lui-même vécu des expériences exceptionnelles, comme la fois où Dieu lui est apparu en songe alors qu'il était à Gabaon, et cette fois où Dieu même lui a accordé une sagesse et une intelligence incroyable afin de gouverner un peuple qui était déjà si nombreux. Une sagesse si grande, mes frères et sœurs, que la Bible nous dit que tous les rois de la terre avaient entendu parler de lui. Et elle nous dit que les gens du monde entier venaient pour écouter Salomon parler. C'est dire la sagesse que cet homme avait. Et je dirais même qu'encore aujourd'hui, il faut reconnaître que la sagesse de Salomon et les écrits de Salomon sont reconnus comme étant quelque chose de remarquable. Mais malgré tout cela, sa vie s'est enlisée dans des péchés qui l'ont entraîné au plus bas, toujours plus bas. Et si nous reprenons sa vie à travers les Écritures, nous allons voir clairement que la source de ses égarements est en lien direct avec la relation, écoutez bien, avec la relation qu'il entretenait avec son Dieu. Et finalement, nous voyons à travers Salomon que toutes les expériences qu'il a vécues depuis petit ne l'ont pas empêché d'abandonner les affaires de Dieu et ne l'ont pas non plus empêché d'abandonner l'obéissance à ses commandements. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 12, l'apôtre Paul a écrit « Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Et je vous assure, mes frères et sœurs, que Salomon est l'exemple parfait pour ce texte-là. Il était debout et il était même debout au-dessus de tous les hommes. Pourtant, sa nouvelle manière de marcher avec Dieu lui a valu d'avoir une vie qui s'est dégradée jour après jour. Et il est tombé toujours de plus en plus bas devant la face de Dieu. Dans le psaume 37 au verset 3, le roi David a été celui qui a écrit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, et le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. » Et je pense vraiment que Salomon avait entendu ces psaumes. Seulement avec le temps, il en a peut-être oublié tout le sens. Frères et sœurs, la relation de confiance que nous devons avoir envers Dieu est une relation qui est déterminante pour notre vie spirituelle. Et je ne parle pas ici d'une confiance superficielle comme quelques-uns ont pris l'habitude de vivre. Non, non, non. Je parle d'avoir une confiance sans faille. Une confiance sans faille d'où découlera forcément une dépendance avec Dieu et un engagement pour son œuvre, une obéissance même envers sa parole. Parce que il faut que vous compreniez, et moi aussi, que l'engagement, la dépendance et l'obéissance sont le résultat de notre confiance en Dieu. Ils ne sont pas la condition de cette confiance-là. C'est le résultat. C'est parce que nous avons confiance que nous dépendons de Dieu. C'est parce que nous avons confiance que nous sommes engagés pour Dieu. C'est parce que nous avons confiance en lui que nous sommes capables de lui obéir. Et ça, nous devons le garder dans notre cœur. Vous voyez, nous sommes exactement ici arrivés à la source des échecs de Salomon. Mais je pourrais même dire que nous sommes arrivés à la source de nos propres échecs. Une source qui portait certainement le nom de doute ou d'orgueil dans le cœur du roi. Parce que s'il ne doutait pas de la puissance et des conseils de Dieu, alors c'est que l'orgueil avait séduit son cœur au point de l'amener à penser qu'il était le seul à pouvoir véritablement savoir ce qu'il faut faire ou savoir ce qu'il faut dire durant sa vie de roi, pour son règne, pour le peuple. Et ce soir, nous pourrions tous nous poser cette question importante. Qu'est-ce qui alimente réellement mon cœur? Est-ce le doute, l'orgueil, ou alors est-ce la confiance en Dieu? En tout cas, en ce qui concerne Salomon, la Bible nous montre que lui, il avait choisi d'abandonner la confiance en Dieu pour la placer dans le monde et dans tout ce que le monde propose. Toujours dans le psaume 37, mais au verset 5 cette fois. David a écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et alors il agira. » Vous voyez, il y a toujours des « et ». Parce que nous, on aime bien entendre et prendre ce verset de dire « Dieu agira ». Mais on oublie ce qu'il y a avant. Il dit « Recommande ton sort à l'Éternel, passe du temps devant ton Dieu, demande-lui ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et confiance en lui, quelle que soit la décision que ton Dieu te dira de prendre, prends-la, même si elle ne te correspond pas, même si tu penses que tu te trompes, prends la décision que Dieu t'a dit, et alors tu verras la main de Dieu agir. » C'est cela en fait qui est écrit. Si Dieu nous permet d'entendre ce psaume, je vous assure que c'est pour que nous puissions le garder précieusement dans notre cœur. Parce que la réalité, c'est que celui qui cesse de confier en l'Éternel cesse aussi d'avoir la foi que Dieu lui demande d'avoir. Et l'apôtre Paul va écrire dans Hébreux chapitre 11 et verset 6 que sans la foi, et là je parle bien sûr d'une foi ferme, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je suis désolé, je le répète. On parle d'une foi ferme, pas simplement de croire que Jésus existe et qu'il est mort sur une croix. Nombreux sont les personnes qui croient que Jésus existe. Nombreux sont ceux qui croient que Dieu existe. Hier, je suis allé faire une visite et puis quelqu'un me disait, c'était un jeune qui rentrait chez ses parents et qui a été déçu par l'œuvre certains chrétiens, ce qui peut se passer parfois malheureusement dans certaines églises. Et il disait, mais je sais que Dieu existe. Je crois qu'il existe. Et j'ai la foi. Sauf qu'en réalité, il vivait dans le monde et pour le monde. Et il a tristé le cœur de Dieu. Et de la même manière, je lui ai dit, c'est quand même dommage de savoir que Dieu existe et de ne pas avoir confiance en lui. Que les chrétiens puissent décevoir, je le conçois, nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes imparfaits, même si nous courons vers cette perfection. Mais Dieu ne t'a jamais déçu. Et il m'a dit non. J'ai dit, mais alors pourquoi est-ce que Dieu paye les erreurs des autres ? Il est encore dans la réflexion. Que Dieu le bénisse, en tout cas je prie pour ce jeune. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est quand même triste de voir l'évolution que peut prendre notre vie lorsqu'on choisit de ne pas faire ce qu'on sait être bon pour notre vie spirituelle. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16 au verset 3, c'est Salomon qui va écrire quelque chose qui s'avère être une grande leçon de vie pour un disciple de Jésus. Il va dire, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Et je vous assure que ça, mes frères et sœurs, c'est une grande vérité que Salomon a lui-même vécu durant quelques années parce que après avoir su dépendre réellement de son Dieu, eh bien la Bible est là et elle nous enseigne que Salomon a connu la réussite dans tous les domaines de sa vie. Ses jugements sont même devenus célèbres. Seulement voilà, très rapidement, il va choisir de ne plus faire passer les projets de Dieu avant tout. Il va choisir de décider lui-même ce qu'il doit faire ou ne pas faire, de choisir ce qu'il doit dire ou ne pas dire. Et finalement, celui qui a écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse », celui qui a écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers » est aussi devenu celui qui a commencé à calculer sans tenir compte de Dieu. Salomon est aussi celui qui a écrit dans Proverbes 3:7 « Ne sois point sage à tes yeux ». Mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Seulement voilà, Salomon va choisir d'orienter ses choix politiques et personnels comme bon lui semble. Et ce n'est pas tout. Salomon connaissait parfaitement les Écritures parce que je vous assure que depuis son jeune âge, il devait passer du temps avec Dieu comme son père l'avait fait avant lui. David lui avait donné cet enseignement. Et il savait parfaitement ce qui était demandé aux Israélites. Il leur était demandé de ne pas s'unir avec des femmes d'autres nations, et pour une bonne raison. Il disait parce que sinon, elles finiraient par détourner leur cœur et par les entraîner à adorer de faux dieux. Il savait cela. Il connaissait, ce commandement de Dieu, ce que Dieu lui demandait. Mais je dirais que parce que Salomon ne confiait plus avec l'Éternel comme au premier jour, alors il va commencer à raisonner avec sa propre intelligence et finalement les choix qu'il va faire vont l'emmener à créer de nombreuses alliances avec de nombreux royaumes voisins, en commençant par accepter d'épouser la fille du roi d'Égypte, en commençant par accepter d'épouser les filles de nombreux rois qu'il y avait autour de lui, à tel point que la Bible va dire dans 1 Rois chapitre 11 et verset 3, que Salomon a eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Mais surtout, elle dit quelque chose d'important juste après. Elle dit que ces femmes détournèrent son cœur, exactement comme Dieu l'avait annoncé. Il pensait pouvoir échapper à cela. Et pourtant, ce que Dieu lui avait dit, ce qu'il savait être juste, l'a rattrapé. Mes frères et sœurs, Dieu ne parle pas en vain. Dieu est souverain, mais Dieu sait, il connaît, il sait qui nous sommes, il connaît nos cœurs. Et s'il nous dit de faire quelque chose pour notre bien, alors faisons-le parce que c'est forcément pour notre bien. Ne pensons pas être plus sages que Dieu, parce que nous ne pouvons pas être plus sages que Dieu. Salomon était certainement plus sage que n'importe lequel d'entre nous ici. Et pourtant, parce qu'il n'a pas écouté Dieu, il s'est retrouvé à tomber dans ce piège que Dieu lui avait pourtant montré. Nous pensons souvent pouvoir changer les autres, mes frères et sœurs, en acceptant par exemple Salomon certaines alliances. Peut-être qu'il s'est dit, moi je me marie avec elle, je fais une alliance, mais elle se tournera vers Dieu. Et c'est vrai que certaines fois nous pensons que nous allons réussir à changer les autres, mais la réalité, mes frères et sœurs, c'est que si nous ne restons pas véritablement très, je ne sais pas comment dire ça, mais vigilants, si nous ne veillons pas attentivement sur notre âme, alors ce sont les autres qui pourraient nous changer à nous. Et ça, Dieu le savait. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que quoi ? Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi ? Parce que l'esprit que vous avez, le nôtre, est bien disposé. Mais mes frères et sœurs, il dit que notre chair est faible. Une chair si faible qu'elle peut nous amener à croire que déroger à un simple commandement n'aura pas beaucoup de conséquences sur notre vie. Une chair si faible qu'elle peut aussi encore nous amener à croire que nous sommes suffisamment forts avec Dieu pour ne pas tomber dans ces nombreux pièges que l'ennemi de nos âmes est en train de nous tendre chaque jour, jour après jour, mois après mois, année après année. Pourtant, je vous assure ce soir que si Dieu nous avertit et si Dieu nous conseille, c'est justement parce qu'il connaît mieux que personne le cœur des hommes et parce qu'il connaît mieux que personne nos faiblesses spirituelles. Alors, réfugions-nous constamment auprès de Dieu. Et comme le dit si bien le psaume 119 au verset 11, serrons la parole de Dieu contre notre cœur afin de ne pas pécher contre lui. Et je pourrais rajouter quelque chose, même si je ne suis pas digne de le faire, mais avec le temps, mes frères et sœurs, faisons attention de ne pas laisser tomber quelques pages de la parole de Dieu par terre. Parce que c'est aussi un danger. Certaines fois, nous serrons la parole de Dieu, mais avec le temps, nous desserrons légèrement et certains commandements, certaines paroles tombent à terre. Faisons attention, c'est tellement important. Il y avait un autre élément qui a poussé Salomon à prendre toutes ses femmes. Un élément, c'est vrai, que nous ne pouvons pas négliger dans notre vie, même si il faut bien avouer que nous avons souvent du mal à en parler. Dans 1 Roi, chapitre 11, et à la fin du verset 2, il est quand même écrit « Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. » Et à travers ce verset, eh bien, nous pouvons voir que Salomon avait des pulsions envers les femmes. Des pulsions qui l'ont poussé à rentrer dans une spirale qui n'avait plus de limite pour lui. Écoutez, mes frères et sœurs, pour Salomon, il est parlé des femmes. Mais nous avons tous diverses pulsions que nous devons régler avec l'aide de Dieu. Et si nous ne le faisons pas, si nous ne réglons pas cela dans notre cœur, alors nous encourons le risque qu'elle nous domine et qu'elle nous possède au point que notre conscience même soit altérée et aveuglée. Ce qui s'est passé pour Salomon. Il y a encore une raison des échecs de Salomon. Et je dirais que c'est, ou ça a été, la tolérance du péché. Une tolérance que nous retrouvons malheureusement chez beaucoup de chrétiens de nos jours. Dans notre verset de référence, nous avions vu que David, son père, l'avait éduqué dans cet enseignement qui disait « Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Et de la même manière que nous le sommes ce soir, Salomon était parfaitement au courant de ce qu'il devait faire pour être agréable à Dieu et pour réussir sa vie spirituelle, mes frères et sœurs. Seulement voilà, il s'est laissé entraîner et sa fermeté s'est très vite assouplie au point qu'un chapitre plus loin, dans la Bible, il va dire au verset 3 que Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur des hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. En fait, la Bible nous montre que petit à petit, Salomon glissait toujours un peu plus loin de Dieu, jusqu'au moment où il est écrit dans la parole qu'à l'époque de sa vieillesse, ses femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel son Dieu, comme l'avait fait son père David. Dans 1 Roi, chapitre 11, verset 4, vous pourrez le relire. Vous voyez, mes frères et sœurs, Salomon n'avait pas complètement abandonné Dieu. Mais la réalité, c'est qu'il ne s'attachait plus à lui de tout son cœur. Il ne s'y attachait plus de toute son âme. Il n'y s'y attachait plus de toute sa pensée. Et ça faisait de lui à ce moment-là quelqu'un de tiède. Et je vous rappelle quand même ce que Jésus a dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 16. Il dit « Ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Écoutez bien. La tolérance vis-à-vis des choses que la parole désapprouve nous conduira toujours vers un éloignement progressif de Dieu. Et comme pour Salomon, puisque nous parlons de Salomon ce soir, vers de nombreux échecs, je vous l'assure. Choisir d'obéir à Dieu seulement lorsque cela nous arrange, ou même, je dirais, choisir de ne pas vivre à 100% pour Dieu, eh bien, revient à nous condamner à l'échec. Revient à nous condamner à l'échec dans tout ce que nous allons entreprendre, mais aussi dans notre propre vie spirituelle. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, de ce que Dieu va dire à Josué juste après la mort de Moïse, alors qu'il est là et qu'il regarde ce peuple nombreux, qu'il regarde le Canaan dans lequel il doit rentrer. C'était quelqu'un qui avait déjà fait la guerre, il était sur les champs de bataille. Et malgré tout, il avait eu besoin d'une parole de Dieu. Et Dieu va lui dire au chapitre 1, au verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Et il rajoute, « Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. » Il n'y a pas de compromis à faire avec le péché, mes frères et sœurs. « Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. » Afin de quoi ? Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et on ne parle pas que de choses matérielles. Bien sûr que Josué a réussi dans les conquêtes, mais il est aussi parlé de sa vie spirituelle ici. Parce que souvent nous avons envie de réussir dans le monde, mais à combien Dieu nous demande de préférer réussir dans son œuvre, avec lui, de manière spirituelle, réussir à avoir une relation eh bien proche de notre Dieu, réussir à l'aimer plus que toute autre chose. C'est ça la réussite que Dieu veut pour nous. La principale, à quoi bon nous servirait-il d'avoir de grandes et belles voitures, de grandes et belles maisons, si spirituellement nous sommes loin de Dieu et que nous nous laissons entraîner à la dérive? Cela ne servirait à rien. Si, à assouvir quelques plaisirs peut-être sur la terre, mais qui seraient que passagers, éphémères. J'ai parlé avec un jeune, encore une visite que j'ai faite en début de semaine, un jeune qui avait 17 ans, sa mère nous a appelés. Et ce jeune était là et il disait, j'ai envie de connaître Dieu. Alors on m'a demandé d'aller là-bas, je suis allé visiter ces personnes. L'histoire de ce jeune est la suivante. Il avait déjà entendu parler de Jésus, mais il est jeune. Et il s'est dit, mes amis n'y vont pas, je suis quand même jeune, j'ai 17 ans, qu'est-ce que je vais faire moi à l'église à 17 ans? Et puis il traînait un peu dehors avec les amis. Alors il prenait du temps pour jouer, il faisait certaines bêtises, des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, mais qui sont peut-être aujourd'hui normales pour le monde. Et un jour, un de ses amis a la bonne idée de prendre une voiture, cette place. Il n'avait pas le permis, bien sûr, parce qu'il avait le même âge. Et sans le dire à ses parents, ils ont décidé de partir à la plage. Ça s'est passé pas loin, hein, c'était vers Carrie. Sauf que le soir, lorsqu'ils sont revenus, ils ont croisé une voiture de police. Et la voiture ne les a même pas contrôlés, que ce qu'ils ont fait, ils ont pris de panique, ils ont accéléré, ils ont essayé de s'échapper, de fuir la police, parce qu'ils avaient peur des conséquences. Et ils ont fini avec un accident très grave dans un fossé. Deux des sept enfants sont morts dans la voiture. Ce jeune est resté dans le coma, entre la vie et la mort, pendant plus d'un mois. Il a la colonne vertébrale qui est dans un mauvais état. On ne sait pas s'il remarchera, mais peu importe. Lorsque je suis allé là-bas et que je parlais de Dieu, il m'a dit, tu sais, et j'ai compris quelque chose. Tu as dit quelque chose que j'ai moi compris. Il disait, à quoi me servirait de grandir dans ce monde-là? J'aurais pu tout perdre dans cette voiture et partir en enfer. Il a pris conscience des choses que parfois nous, chrétiens, nous oublions avec le temps. Et je vous assure que nous devrions nous rappeler de cela. Peu importe ce que le monde nous propose, ce qui est important, c'est de réussir sa vie spirituelle, mes frères et sœurs. Je tiens aussi à rappeler que les échecs de Salomon ont été liés à son manque d'écoute des autres, parce que c'est important de savoir écouter. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 15 et au verset 22, nous voyons que, sous l'inspiration de Dieu, il a eu la sagesse de dire « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers ». Salomon le savait, le problème, c'est que lorsqu'il est devenu roi, il a choisi de se reposer seulement sur lui-même. Et finalement, je dirais que l'intelligence qu'il a reçue est devenue une faiblesse parce qu'il n'a pas su veiller sur son cœur. afin que l'orgueil ne vienne jamais contaminer ce don si précieux que Dieu lui avait donné, un don qu'il avait reçu alors qu'il était lui-même rempli d'humilité. Une humilité qu'il aurait pu préserver s'il avait veillé sur son cœur, s'il avait veillé et qu'il était resté proche de Dieu et proche de la parole de Dieu. Écoutez, mes frères et sœurs, nous serons toujours fortement tentés de penser et d'agir seuls, sans chercher à nous ouvrir aux autres. Parce que il faut bien avouer que c'est un peu la mauvaise habitude qu'ont les hommes aujourd'hui. Nous avons appris à dire « mais ne t'inquiète pas, je gère » ou alors « je sais très bien ce que je fais ». Mais je ne suis pas né de la dernière pluie, quand même, tu me connais. Et c'est une habitude que l'homme a pris. Seulement faisons attention que notre tour d'ivoire, je le disais à l'église de Saint-Victoré, ne ressemble pas plutôt à une tour de Pise qui serait là en train de s'écraser. Et cette tour de Pise aujourd'hui ne s'est pas écrasée parce que les hommes sont en train d'employer des moyens. C'est très coûteux pour essayer de la tenir debout. Faisons attention. Faisons très attention. Nous avons lu au début que celui qui est debout prenne garde de tomber. Gardons conseil auprès des autres. Je continuerai en disant rapidement que des conséquences, qu'il y a forcément plutôt des conséquences liées aux échecs. Et des conséquences qui sont liées aux échecs du roi Salomon, il y en a plein. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas ignorer que chacune de nos actes, chacune de nos actions aura une conséquence. Des conséquences, eh bien, qui parfois seront lourdes. Et malheureusement, lorsqu'elles sont mauvaises, eh bien, nous remarquons que ces conséquences s'arrêtent très rarement à nous-mêmes. En règle générale, elles ont des répercussions qui sont énormes sur notre vie, mais également sur la vie de ceux qui nous entourent. Salomon, mes frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il a commis de nombreuses erreurs, il a commis de nombreux péchés. Mais au-delà de la dégradation lamentable de sa vie morale et je dirais de sa vie spirituelle, nous pouvons voir une chose, c'est que les conséquences de ses actes, eh bien, ont été répercutées sur tout le peuple d'Israël. La Bible nous dit que durant la durée de son règne, l'Éternel a suscité des ennemis au roi Salomon, des ennemis violents, qui s'en prenait aussi au peuple d'Israël. Mais ce n'est pas tout. Le pays d'Israël va être complètement divisé. Et dans 1 Roi, chapitre 11, verset 11, il est écrit, « L'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, voyez, c'est bien une conséquence, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. » Ce qui nous montre qu'aujourd'hui, eh bien, si notre Dieu est un Dieu d'amour, il n'en est pas moins un Dieu juste, un Dieu de justice. D'où l'importance de suivre tous les commandements et de les suivre de la manière qu'il nous les prescrit. Mais il y a encore autre chose. La Bible nous dit que les Israélites ont continué de pratiquer l'idolâtrie à laquelle s'adonnait Salomon, celle dans laquelle il s'est engouffré. Eh bien, les Israélites ont continué à pratiquer cette idolâtrie durant plusieurs siècles après la fin du règne de Salomon. Pendant des siècles, ils se sont éloignés de Dieu. Et au final, eh bien, nous pouvons voir que les échecs du roi Salomon ont eu de lourdes conséquences sur la relation que tout un peuple avait avec Dieu. Mes frères et sœurs, nous pouvons dès aujourd'hui savoir s'il n'y a pas certains domaines de notre vie qui ne sont pas en règle avec Dieu. Et si c'est le cas, eh bien Dieu nous demande de rétablir cela. Parce que ce serait peut-être ce qui pourrait expliquer quelques-uns de nos échecs, sans que ce soit systématique bien sûr, mais peut-être. Je vais terminer avec ça. Terminer en vous rappelant que nos échecs sont souvent liés à notre regard. Salomon était quelqu'un qui cherchait, je vais le dire, à assouvir ses pulsions, des pulsions qui étaient elles-mêmes portées par l'orgueil qu'il avait, et sa vie s'est révélée être un échec progressif qui s'est amplifié vers la fin de ses jours. En fait, son regard n'était plus porté vers Dieu, mais son regard se tournait vers tout ce que pouvait lui offrir le monde. Écoutez bien, mes frères et sœurs, il y a plusieurs années de cela, pour ceux qui regardent le cyclisme, lors d'une étape du Tour de France, c'est dans les années 80, un coureur a connu l'échec alors qu'il devait connaître la gloire en terminant premier de la course. Cet homme était là, il était en tête de la course et pourtant la victoire lui est passée sous le nez. La victoire lui a échappé. Et de la même manière, je dirais que Salomon avait toutes les qualités nécessaires pour devenir un roi qui serait exceptionnel. Eh bien, ce coureur-là était le meilleur ce jour-là et personne n'aurait pu miser sur sa défaite. Personne. Seulement, comme il avait gardé la tête courbée sur son guidon et parce que ses yeux étaient restés fixés sur la roue d'une moto de la caravane, eh bien, il a continué à suivre cette moto sans se rendre compte qu'elle venait de prendre une bretelle de sortie juste avant la ligne d'arrivée, ce qui lui a valu de passer à côté de la victoire. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça, mes frères et sœurs ? Qu'il est triste de perdre la course à cause du fait que notre regard est fixé ailleurs que sur le but. Dans sa lettre aux Hébreux, Paul va écrire à la fin du verset 1, « Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » Et il commence au verset 2 en disant « Gardant les yeux fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. » Mes frères et sœurs, je vous le dis de tout mon cœur ce soir et je me le donne à moi ce conseil, ne reproduisons pas dans notre vie les erreurs du grand roi Salomon en perdant de vue notre Seigneur. Au contraire, gardons nos yeux fixés sur Jésus et restons proches de lui, proches de sa parole, proches de ses commandements, quoi qu'il nous en coûte, c'est une phrase que nous connaissons bien aujourd'hui. Eh bien, nous devons l'appliquer à Dieu. Quoi qu'il t'en coûte, garde les commandements de ton Seigneur. Passe du temps avec lui. Et je finis en vous laissant avec ce dernier verset, un verset que Salomon a écrit à la fin de ses jours, et il y a beaucoup de sens. Il dit dans Ecclésiaste 12, versets 13 et 14, malgré tout ce qu'il avait fait, il dit, « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Il dit, « Crains Dieu et observe ses commandements. » Il avait compris que tout ce qu'il avait pu avoir, tout ce à quoi il a pu goûter, n'avait aucune valeur, parce que cela lui avait valu de ne plus craindre Dieu comme il aurait dû le craindre, de ne plus suivre les commandements de Dieu comme il aurait dû les suivre. Et nous, frères et sœurs, eh bien cela doit nous servir d'exemple et d'avertissement pour continuer à être de ceux qui allons craindre Dieu et qui allons suivre les commandements qu'il nous donne. Amen.